Bonjour à tous, comme nous vous l'avions dit la dernière fois, nous sommes allés à Los Angeles pour voir nos anciens amis. Et ils vont très bien, hein, mais ça nous a surtout permis de visiter ce lieu sacré du cinéma et des séries télé, ce qui fait que fatalement on nous a reconnus là-bas et on nous a proposé d'écrire pour eux et de sauver cette industrie en perdition. On a longtemps hésité, surtout quand on a vu la fin de Game of Thrones, et puis on s'est dit non, on va beaucoup trop manquer nos auditeurs. Nous revoilà donc dans ce qui est toujours le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes. Bienvenue dans Sequel Pitch, épisode 26. Aujourd'hui un programme en hommage à nos vacances, puisque nous parlerons de trois films américains. Ainsi, nous sauvons le père d'un ado en crise dans Détective Pikachu, nous sauvons une ville infestée de zombies dans The Dead Don't Die, et nous sauverons la moitié de l'univers dans Avengers Endgame. Pas de courrier des lecteurs aujourd'hui, mais on vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Avengers Endgame, écrit par Christopher Marcus et Stephen McFly, et c'est Yannick qui nous le pitch.
Le synopsis, après que Thanos ait détruit la moitié de l'univers, les Avengers décident de récupérer les pierres d'infinité pour ressusciter la moitié de l'univers.
C'est ça. C'est un bon début.
Mais Thanos les a réduits à taille d'atomes. Putain,
tu en étais à réduire la taille d'atomes.
Après, on découvre, 5 ans après, ce que sont devenus les Avengers.
Non, tu as oublié qu'ils ont tué Thanos. Ils ont tué Thanos. Donc il tue Thanos. Pardon. Non, le micro.
Ah putain.
Fiona peut dû sortir pendant ce pitch, s'il te plaît. Ah, elle se tourne.
Ouais. Alors.
Allez, micro, toujours. Là, il est de plus en plus éloigné de ta bouche. Là. Donc tu en étais à réduit par la taille d'atomes. Je pensais pas que ce film était aussi drôle.
Mais Thanos les a réduits à la taille d'atomes.
Mm-hmm.
Donc on découvre la vie des Avengers 5 ans après. Donc ils ont vécu des vies de famille, sont restés célibataires. En gros, on découvre la vie sans la moitié de l'univers. Et à ce moment-là, ils ont la possibilité de retourner dans le passé pour récupérer ces fameuses pierres d'infinité et ressusciter par la même occasion la moitié de l'univers.
Voilà, bravo. Bon. Fiona, qu'as-tu pensé de ce film ?
Alors, moi, j'avais été très déçue de l'Avenger précédent. Je ne sais plus
comment. Oui, ça, je m'en souviens. Oui.
J'ai pas vu les 22 films. J'en ai vu quelques-uns.
Toujours pas ?
Non, toujours
t'as
pas.
T'as eu un an, alors. Je t'avais engueulé l'année dernière. T'avais un an pour voir les 22 films. Tu as toujours pas fait.
Toujours pas vu. Mais j'ai trouvé ce film plutôt réussi, divertissant. Je trouve qu'en plus, ils se sont un peu calmés sur l'humour Marvel. C'est pas parfait, mais c'est mieux. On sent que c'est plus intégré dans le récit et un peu moins... forcé dans chaque scène, donc c'est un peu mieux. Bon, il y a encore la scène où du selfie et Thor, je le trouve un peu trop caricatural, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est mieux. Les 3 heures sont passées assez vite, donc rien que pour ça, je pense que c'est plutôt réussi, que c'est assez intéressant. Après, je trouve qu'on comprend pas tout.
Ah, tu peux me dire ce que tu n'as pas compris.
Alors, je suis à peu près, je me dis, ouais, je suis pas sûre de tout comprendre, mais ça va. Et en fait, c'est là où mon bémol sur ce film, enfin, plusieurs de mes bémols, mais j'ai une petite sensation d'enfumage.
Ah.
Parce qu'en fait, on comprend pas tout, mais ça a l'air bien foutu. Donc du coup, on fait confiance. Voilà, on se dit, oui, alors ils ont dû y penser, parce que moi, ça m'échappe un peu, mais eux, ils ont l'air sûrs de leur histoire, ils ont l'air sûrs de leur procédé, donc j'y crois avec eux. Mais... Donc quand je suis sortie du film, je me suis dit « Ah ouais, c'était bien, c'était intelligent, etc. » Et puis quand tu y repenses un petit peu, tu fais « Attends, mais il y a ça qui est bizarre, puis il y a ça qui est un peu bizarre. » Et par exemple, je me suis demandé pourquoi ils ont pas pensé à aller directement chercher les fioles rouges, je sais plus comment ça s'appelle.
Les composantes de PIM.
Les composantes de PIM pour faire plus qu'un seul voyage dans le temps, puisqu'ils avaient plusieurs fioles.
À quel moment ?
Au tout début, avant de se lancer dans l'aventure.
Oui, mais au tout début, le problème, c'est que le mec, donc PIM, qui fabrique les composants de PIM, est mort.
Oui,
fait partie des 50%. Donc du coup, ils ont juste un nombre limité de composants.
Oui, mais donc la question, c'est pourquoi ils ne retournent pas dans le passé comme ils font après.
Ils auraient pu le faire plus tôt.
Ouais,
ça, c'est vrai.
Je trouve que pour des mecs super intelligents, ils y vont pas préparer du tout, quoi.
C'est vrai qu'ils auraient pu commencer, c'est vrai que j'y avais pas pensé, ils auraient pu commencer par aller chercher un énorme stock de PIM,
comme ça
ils auraient pu avoir autant d'essais qu'ils voulaient.
Parce que là, effectivement, ils n'arrêtent pas de le dire pour que les enjeux soient bien sûr plus forts.
C'est un aller-retour.
Un seul aller-retour par équipe, et c'est tout. Et bah, du coup, tu dis, bon, déjà, ils auraient pu faire ça, mais en plus, pour cet aller-retour, ces allers-retours, ils sont pas très préparés. Je trouve qu'ils ont pas vraiment de plan pour récupérer Les pierres, c'est un peu freestyle une fois qu'ils sont là-bas.
Ça arrive un peu au milieu de l'histoire où ils disent ah, parce que ils ont chaque équipe se divise en plusieurs. Les Avengers se divisent en plusieurs équipes pour dire bah moi je vais récupérer telle pierre, moi je vais récupérer telle pierre. On n'a qu'une seule chance. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il y en a un où ça se passe mal parce que globalement ils arrivent tous à récupérer leur pierre, mais il y en a un où ça se passe mal. Ils disent on est foutu, on peut plus revenir. Ah bah si, on va trouver la composante de Pym. Comme tu dis, ils auraient pu le faire avant. Mais pour revenir sur le voyage dans le temps. Moi j'ai vu beaucoup de critiques sur internet et évidemment vu que je me suis autoproclamé expert du voyage dans le temps dans les fictions, oui depuis longtemps, c'était plutôt bien fait parce qu'en fait, et c'est ce que explique Hulk dans le film, il explique extrêmement rapidement, si tu suis pas, t'arrives pas à comprendre, c'est qu'en fait ils ne remontent pas vraiment le temps, ils vont dans des univers parallèles. Et ça c'est ce qui explique l'actrice dont j'ai oublié le nom, la chauve dont on reparlera dans The Dead Don't Die, aidez-moi comment ça s'appelle ?
Tilda Swinton.
Et ben elle explique, elle dit, elle dit ça c'est mon univers, si vous retirez les pierres de mon univers, bah le mien, vous arriverez à vous sauver, le mien sera crevé. Donc du coup ce qu'ils font en fait, ils ne voyagent pas dans le temps, enfin ils voyagent dans le temps mais ils voyagent dans un autre univers, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font dans cet univers, c'est pas grave.
En fait c'est comme Spider-Man and the Multiverse, il y a plusieurs univers.
C'est ça, sauf que là c'est des univers quasiment identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien à changer. Mais moi j'ai envie de dire d'accord, mais alors si c'est pas grave, pourquoi est-ce qu'ils font autant de concessions? Pourquoi est-ce qu'ils mettent en méthode autant ninja pour surtout pas se faire voir? Parce que de toute façon c'est pas grave s'ils se font voir, parce que de toute façon ils ramènent les pierres. Oui, mais donc ça n'aurait concrètement rien changé.
Ça encore je me dis que s'ils font attention c'est aussi pour pas non plus foutre en l'air les univers où ils vont quoi.
Mais moi je suis pas sûr parce qu'au bout d'un moment ils disent en revenant dans le passé ton futur va changer, enfin je sais pas, il y a une espèce de
c'est exactement l'inverse qu'ils disent.
Il dit justement ça ne changera pas le futur, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ah oui, ils disent texto et c'est pour ça que en fait il faut ramener les pierres parce que eux dans leur c'est pas comme si les pierres avaient disparu au moment où ils les ont prises et qu'ils les retrouveront plus tard. Les pierres n'existeront plus dans le monde où ils les ont prises parce qu'elles n'existeront plus parce que le passé qui modifie donnera un futur qui n'est pas le leur, qui sera pas eux dans leur futur, il y aura toujours 50% des gens qui seront morts. Ça, ils pourront rien faire contre ça. C'est pour ça qu'ils veulent juste récupérer les pierres pour ressusciter les 50% d'univers qui sont morts.
Dans leur univers,
et c'est pour ça que Tina Swilton leur fait jurer, de dire ok très bien, on vous prête les pierres, mais vous nous les ramenez. Et c'est ce que fait Captain America à la fin.
Toutes ces subtilités.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est trop rapide.
C'est un peu complexe.
C'est ce que tu disais, Fiona, sur on comprend à peu près. Quoi.
Voilà, moi j'avais à peu près compris, alors j'avais pas mis ça j'avais pas utilisé le mot univers dans ma tête, mais voilà, c'était dans des timelines différentes, on va dire. Voilà.
Bah, c'est quelque chose de très très récurrent dans l'univers Marvel, c'est l'univers parallèle. Voilà. Hein. Ils ont même fait un univers où Spider-Man se fait pas mordre par une araignée, mais il se fait mordre par un mouton. Et en fait, il devient mi-homme, mi-bouton. Donc vraiment, ils sont amusés là-dessus.
Mais. Bon, donc je trouve que c'est quand même, ça marche pas mal, mais il y a quand même des raccourcis dans ce monde-là. Donc, outre le fait qu'ils ne sont pas du tout préparés, ne serait-ce que pour récupérer la pierre, alors je ne sais plus laquelle, mais où c'est la Nebula, la robot, là,
oui.
Qui met sa main et qui crame sa main pour récupérer. Ben, heureusement qu'elle était dans cette équipe. J'espère que c'était fait exprès, mais ce n'est pas sûr. Quoi.
Ah oui, mais tu vois, parce que là, ça se passe dans le film. En fait, ils retournent dans le film, parce que ça, on a oublié de le dire. Mais c'est un énorme clin d'œil nostalgique aux 22 films. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, les Avengers, retourner dans les anciens films les uns après les autres. Et celui-là, c'est dans Les Gardiens de la Galaxie. Et d'ailleurs, ils assomment Peter Quill qui est en train de chanter. J'ai trouvé ça honnêtement bien, cette scène où il chante dans le film, on était de son point de vue. Là, on voit un peu l'extérieur, donc on le voit chanter tout seul comme un con. Lui, il avait une espèce de machine qui permettait d'aspirer le globe. Lui, il n'a pas mis sa main dedans. Donc en fait, il y avait plusieurs moyens d'arriver à ça. Donc même si elle n'avait pas été là pour mettre sa main, je pense que.
Oui, mais ils sont arrivés pas préparés, quoi. C'est un peu bizarre, sauf ceux qui viennent avec le mini avion, avec l'avion miniature pour aller.
Justement, sur l'inverse, je trouve que c'est les moins préparés de tous.
Oui, mais les gens, on leur donne ça, on dit tiens, et pourquoi eux, pourquoi ils sont pas téléportés directement sur la planète, alors pourquoi ils ont besoin d'un petit avion?
C'est un vaisseau spatial pour commencer. Et puis d'autre part, oui, ça c'est vrai, c'est que non seulement ça permet de voyager dans le temps, mais clairement ça permet de voyager aussi dans l'espace, parce que Thor, il arrive directement sur Asgard, sur sa planète, quoique. Si ça se trouve, il se téléporte avec son marteau, enfin avec sa hache.
En plus, dans le tube, là, tu les vois partir chacun d'un chemin, comme s'ils avaient une petite map.
Mais du coup, donc, oui, pourquoi ceux avec le vaisseau spatial, ils ne vont pas directement sur la planète où il y a la pierre de l'âme? Et surtout, ils avaient toutes les infos disponibles pour savoir qu'il faudra en sacrifier un des deux. Je veux dire, justement, il y a la petite robot Nebula qui leur dit « Thanos est parti avec sa fille, il en est parvenu, elle est morte. » Et même dans Avengers 1, il raconte que oui, j'ai été obligé de la tuer. Enfin, ils avaient toutes les informations qu'il fallait pour savoir, et pourtant ils sont étonnés. Oui, ils font tuer un des deux. Ah bon, d'accord, ça, pour le coup, oui, ça c'est une mauvaise préparation. Même si, La scène est plutôt pas mal de savoir qui va sacrifier, parce qu'évidemment c'est des super-héros, donc ils veulent tous les deux se sacrifier. Et je me suis fait avoir quand vraiment le faucon arrive à tirer une flèche explosive pour les tourner et qu'il saute. Ah, je me suis dit, ah, ok, d'accord, il va vraiment mourir parce qu'on nous a installé que c'est un personnage brisé qui avait perdu sa femme et ses trois gosses et qui était devenu un ronin qui se mettait, qui avait uniquement son but de vengeance, c'est de tuer tout le monde.
Mais alors, l'autre question que j'ai, et qui m'a le plus perturbé pour le coup, même pendant le film, c'est comment la Nébula du passé fait-elle en deux secondes d'ailleurs pour faire venir son père et toute la Smala dans notre époque. Elle tripote la machine une seconde et demie, mais a priori, lui, il n'a pas là-bas de combinaison ou de trim, machin.
De composant trim. Alors si, en fait, il en a une. C'est très rapide, en fait, parce que la Nébula du futur, quand elle est revenue dans le passé, donc elle avait le PIM qui lui a permis d'aller dans le passé, plus le PIM qui lui permettait d'entrer dans le futur, ils lui ont volé, et on voit une scène où elle apporte la composante PIM à Thanos. Alors, c'est grâce à ça...
Mais alors, comment elle est revenue, elle?
Ah bah c'est une excellente question.
C'est qu'il en manque quand même un.
J'avais pas pensé à ça, oui. De un, il en manque un, et puis de deux, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Et deux, surtout, PIM, c'est normalement une petite composante pour te voyager toi. Thanos, il arrive avec lui, son vaisseau, et toute l'armée. Alors là, je ne sais pas comment il a fait pour amener ça. Mais ça, on le sait très bien en tant que scénario, il fallait un crescendo, il fallait qu'il y ait une bataille finale. D'autant plus après la fin du dernier Avenger, où il y avait une bataille épique au Wakanda. Il pouvait pas, ça pouvait pas juste être un combat Thanos contre les Avengers. Donc il fallait qu'ils amènent une armée. Donc ça, je suis d'accord, c'est un gros défaut de scénario. Ce n'est pas possible qu'il amène son armée. Et comme tu dis, où était la composante de PIM? Comment est-ce que la Nébula du passé a pu arriver dans le futur?
Ah, moi, j'ai compris qu'ils avaient ouvert une espèce de couloir du temps et que n'importe qui pouvait
Se glisser. Oui, mais pour ouvrir le couloir du temps, il faut quand même la composante de PIM. Il faut deux choses pour. Mais
pas individuellement.
Ah si? Bah, tu vois bien qu'ils sont tous là avec leur fiole.
Oui, maintenant que tu le dis, oui.
Et c'est pas... Alors là, pour le coup, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est que j'ai regardé la critique de Durandal sur YouTube et qui disait justement, est-ce que c'est les combinaisons ou c'est la machine qui les fait voyager, parce qu'on dirait qu'ils ont besoin de leur combinaison et finalement non. Mais en même temps, il le dit, Durandal, il a raison. Comment il s'appelle, ceux qui retournent justement voir son père, Iron Man qui retourne voir son père, il y va sans la machine, il y va avec la combinaison.
Oui, mais alors ça, moi je l'explique dans le fait qu'à mon avis, d'ailleurs on le voit à la fin, Captain America est obligé d'utiliser la machine, je pense que c'est le premier voyage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as besoin du voyage pour t'en passer, et après le scénario nous l'explique pas, mais on peut le supposer, qu'une fois que t'es dans le passé, tu peux voyager dans diverses époques. Captain America est obligé de faire ça à la fin, même si on ne le voit pas dans son ellipse, parce qu'il a plusieurs pierres à ramener à plusieurs époques. Donc on peut supposer qu'une fois que t'es dans le passé, t'as plus besoin de la machine, t'as juste besoin de la composante de PIM. C'est une facilité scénaristique, ça c'est vrai.
Bah, je pense qu'on a pas mal parlé donc de ces voyages temporels qui forcément soulèvent des questions et sont difficiles à régler, mais outre...
Ah bah, non, moi je trouve justement qu'ils arrivent à les régler, parce que ce n'est pas un vrai voyage dans le temps, c'est quoi qu'on fasse dans le passé, c'est un univers parlèle.
Oui, donc moi, ils arrivent à régler, mais à peu près comme on l'a dit, parce que...
Ah oui, après il y a d'autres problèmes. Mais moi, il n'y a pas de problème de paradoxe temporel comme on peut en voir. D'ailleurs, il les cite, Retour vers le futur, Terminator, qui sont bourrés de paradoxes temporels, eux, ils esquissent ça d'un revers de la main, parce qu'ils disent, bah, il n'y a pas de paradoxe temporel parce que c'est pas le même univers.
D'accord, oh, non, ça me va, mais j'ai d'autres questions sur le film.
Je vais t'en prie.
Alors la question, je te l'ai déjà posée, mais j'ai pas compris pourquoi Steve, enfin Captain America, pouvait soulever le marteau de Thor. Tu m'as expliqué que c'était dans un précédent film déjà, on disait que c'était que les personnes qui en étaient dignes qui pouvaient le soulever, que ça n'avait rien à voir avec... Le fait d'être dieu, mais à ce moment-là, ça veut dire quoi pour les autres Avengers, quoi?
Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, l'explication que je crois avoir compris dans le film, c'est qu'il faut en être digne pour soulever le marteau, donc Thor en est digne. Captain America se retrouve digne, parce que dans Avengers 2, on le voit, il arrive un tout petit peu à le bouger, mais il n'y arrive pas. Enfin, quoi, il est devenu plus digne entre Avengers 2 et maintenant. Et comme je dis, n'importe quel Avenger, c'est tous des super-héros, ils devraient tous en être dignes.
Et j'ai une question... subsidiaire, c'est est-ce que Thor, une fois qu'il s'est transformé en Big Lebowski, là, est-ce qu'il est toujours digne de son marteau?
Ah bah oui, parce que la preuve, c'est que quand il va dans le passé voir sa mère, il arrive à prendre le marteau.
Il a retrouvé sa dignité, on va dire, mais avant, est-ce qu'il aurait...
Mais moi, c'est ça que je comprends pas, il est plus du tout digne, justement, Thor.
Bah la preuve que si, parce qu'il arrive
à... Ce marteau fait des favoris, quoi. Bah, il a des chouchous.
Pourquoi? Attention, j'ai pas entendu ta question, Yannick.
J'ai dit, en posant la question de la dignité, pour moi, Thor l'était plus du tout. Je comprenais pas ce truc. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, non, il gardait.
T'as des trucs de... Mais de toute façon, après, comme tu dis, c'est peut-être le marteau. Je connais pas bien la mythologie Asgard pour savoir si oui ou non c'est le marteau qui choisit qui en est digne ou pas. Parce que lui, c'est quand même
c'est
un dieu.
Peut-être comme Harry Potter, c'est le marteau qui choisit son dieu, alors que comme la baguette choisit son sorcier.
Je connais mal Harry Potter, mais oui, c'est peut-être ça. Et donc, du coup, Thor, il arrive, il a sa hache qui lui sert à ouvrir ses canettes de bière, ça maintenant. D'ailleurs, une question, mais qu'est-ce que vous avez pensé du traitement de Thor, d'ailleurs ? Parce que énormément... C'est drôle, après, il avait tellement la classe, ce personnage, surtout dans le film d'avant, que d'un seul coup, ils en ont fait un mec...
Moi, je trouve ça plutôt drôle. Après, je trouve qu'il y a... c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu... Il est un peu trop lourd. Bah, il est lourdingue, quoi.
Il devient le comic relief, ce qui est quand même extrêmement rare. C'est-à-dire, pour moi, ça va dans la composante du personnage. Thor 1 était très sérieux, Thor 2 un peu moins, Thor 3, c'était une comédie pure. Et là, maintenant, bah, il est devenu... concrètement un personnage de comédie qui est plus si puissant ça. Il y a une forme de logique.
Moi, et puis moi ça me dérange pas parce que ne serait-ce que bah, franchement un super-héros avec un marteau c'est pas très tu vois.
Non, mais il a perdu son marteau, okay, tu n'aurais pas compris.
Alors, c'est juste un mec.
Il le perd dans Thor 3, c'est pour ça qu'il est très content
ça,
de le retrouver.
En revanche, moi ce qui m'a plus dérangé, mais pareil, j'ai pas vu les autres films, mais son histoire avec sa mère, oui. Il avait l'air d'être très touché par sa mère, mais en même temps bon, on sait pas, enfin c'est vrai que quand t'as pas vu les films, ben là ça t'échappe quoi forcément.
Il a toujours été très très proche de sa mère, mais à mon avis ils n'ont pas réussi à avoir Anthony Hopkins, sinon ils auraient fait son père, hein, parce que son père c'était Odin à ce moment-là de l'histoire, il est encore vivant. Moi je pense qu'ils auraient préféré avoir Anthony Hopkins. Bon, clairement il devait être trop vieux, ou alors il a demandé trop pour tourner le film, donc du coup ils ont mis sa mère.
Voilà mon problème avec ça, c'est que sans avoir vu les autres films, quand Tony Stark retrouve son père et on comprend que c'est son père, etc. Mm-hmm. Je trouve ça très touchant. Je trouve que cette scène, elle marche bien, je la trouve chouette, alors que j'ai vu aucun autre film, je sais pas quel est son attachement à son père, etc. Mais je trouve que ça marche bien. Là, il voit sa mère le jour où elle va se faire tuer, et ça provoque rien du tout, je trouve. Donc, différence de traitement entre ces deux réunions de parents-enfants.
Mais à mon avis, Yannick. Justement, parce qu'il a ce physique un peu étrange, tu vois ce que je veux dire ? C'est que depuis le début, tu te marres sur son espèce d'état.
Ouais, ça aurait été le moment de faire une bascule, justement, je trouve. Enfin,
ouais,
ça reste un type avec des sentiments.
Ça marche moins bien parce qu'il est dans cet état-là un peu dépressif. Quoi.
Non, mais surtout, moi, la question que je me suis posée, c'est que, étant donné, je reviens sur les univers parallèles, étant donné que c'est pas leur univers, à la fin, quand ils arrivent à tuer Thanos, donc ils tuent le Thanos d'un autre univers. Donc, c'est-à-dire qu'il existera un univers, celui où ils ont pris les pierres, où Thanos n'existera pas. Ils n'auront jamais ce problème. Et Gamora ne rejoindra jamais les gagnants de la galaxie, et les gagnants de la galaxie n'existeront pas dans cet univers.
Ils vont pas les rendre, justement ?
Mais oui, non, mais ils vont rendre les pierres, mais Thanos est mort.
Et donc, ah oui,
Donc du coup, si d'un gagnant de la galaxie, c'est Taquil qui récupère la pierre, donc il va sur l'autre planète, dont j'ai oublié le nom, et c'est là qu'il se fait capturer, c'est là que la team America, les gagnants de la galaxie se forment. Donc il y aura un univers, ça. Ok, donc là, ils ont complètement changé leur univers. Ils ont un univers où Thanos n'existera pas. Donc non seulement ils ont sauvé leur univers, mais ils ont sauvé aussi l'autre univers. C'est-à-dire, quitte à sauver, bah, il pouvait dire à sa mère qu'elle allait se faire tuer, alors elle voulait pas, mais qu'est-ce qu'empêchait Tony Stark de dire à son père, parce qu'il sait exactement comment il va mourir. Il sait quel jour, quelle date et comment il va mourir, il aurait pu lui dire.
Oui, mais en fait, je pense que lui, si on a su la logique de Tony Stark, il n'arrête pas de le dire pour le coup, il veut pas que son présent change, puisque dans les 5 ans, il a eu une fille.
Oui, mais ça ne change pas son présent.
Non, ça ne change pas son présent. Mais peut-être qu'il veut la même chose pour le Tony Stark de l'autre univers.
C'est pas faux. J'ai pas oublié ça. C'est-à-dire qu'en disant à son père, tu vas être sauvé, ça aurait modifié son passé. Ah, il aurait peut-être jamais eu à avoir ce gosse. Donc il voulait pas priver le Tony Stark qui n'était pas encore né d'avoir cette petite fille qui est d'ailleurs tellement craquante. Oh là là là, je pense que c'est la fille la plus adorable que j'ai vue de l'histoire de la fiction.
Et autre question aussi, c'est. Alors moi, je voulais parler du rôle de Captain Marvel.
Oui.
Que je trouve quand même très absente.
Elle est sous-exploitée.
Complètement sous-exploitée. Elle est. On nous l'a. En plus. C'est le film juste avant. On la montre comme celle qui va vraiment tout sauver.
Bah c'est Superman.
Alors, elle est là au début, elle est là à la fin, mais pendant tout le développement du film, elle n'est pas là. Alors, il le justifie en disant vous êtes gentil les cocos, mais il y a d'autres planètes. On est d'accord.
Oui, c'est ce qui était déjà l'excuse de Captain Marvel 1, de Captain Marvel, où elle se barrait et dit non, j'ai d'autres choses à faire. Okay, bon.
C'est une femme très occupée. Mais là, pour le coup, leur plan. Ça concerne tout l'univers, donc les planètes aussi. Donc ça aurait été intéressant de l'avoir, de la convoquer pour ce plan-là.
Ils auraient pu l'appeler Shadrach, je ne sais même pas pourquoi ils ne l'appellent pas.
Ils ne l'appellent pas maintenant parce que...
Ah si, parce que je crois qu'il a dit je pars, je suis hors réseau, j'ai plus rien.
C'est
alors,
bizarre.
Bah, c'est ce qu'il a dit, après il le justifie, c'est une mauvaise justification, mais ils disent non, je suis hors réseau, mais comme tu dis, c'était quand même des missions hyper compliquées, ils auraient pu l'attendre, surtout qu'ils ne sont pas pressés. Tandis qu'ils allaient remonter le temps, ils avaient tout le temps qu'ils voulaient pour l'attendre. Donc c'est vrai qu'il aurait mieux fallu attendre, puis clairement... Bah, ça s'est joué à quelques heures, parce que techniquement, eux, ils partent dans le passé. Quand ils reviennent, dans la terme de chronologie, ils reviennent une heure après. Donc il aurait suffi d'attendre une heure pour que Captain Marvel revienne.
Oui, non, mais en plus, justement, là, tu pointes quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont cette idée, la mise en place de leur idée se passe extrêmement rapidement, alors que ça avait l'air d'être extrêmement complexe.
Oui, mais ça, c'est les détails, heureusement qu'on ne le voit
pas. Mais là, j'aurais bien voulu y mettre un an plus tard. Ils ont mis un an à réussir à foutre leur plan.
Ah peut-être, on sait pas combien de temps ça dure.
Ouais, là il est tout le monde dans la continuité.
Ouais, mais ça casse le rythme. Enfin, je veux dire, si tu te retrouves encore avec un bond dans le temps,
ouais, mais un an plus tard, et tu les vois tout de suite.
Ça sera bizarre, moi.
Je me dirais au moins, bah là, les gars, ils sont préparés, ils ont pas fait les cons.
Oui, mais oui, mais ça va tellement vite. Tu seras encore moins indulgente sur les erreurs qu'ils ont faites.
Oui, je sais. Donc il faut pas leur laisser cette chance, cette possibilité.
Vite, vite, dépêchez-vous, alors qu'il y a rien qui presse.
Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, bah voilà. Il y a la scène avec les girl power.
Ah oui, c'est dommage que Marie soit pas là parce que j'aurais adoré lui poser la question.
Ouais, bah moi j'ai pas
cette
aimé.
Cette scène-là avec toutes les personnages féminins, toutes les personnages féminins qui se réunissent d'un seul coup, à part donc Scarlett qui est morte, mais toutes les personnages arrivent et puis c'est girl power, c'est Space Girl qui fonce sur Thanos.
Moi je l'ai vu comme. Voilà, les féministes elles vont être contentes là. Ouais, bon, on leur a mis une tintienne avec des nanas, elles sont contentes là. Les nanas elles sont badass. C'est pas ça qu'on veut voir, pardon. On veut pas voir un Ocean's 8 spécial fille. On veut juste voir plus des filles plus exploitées et mises en lumière. C'est tout. Donc faites-nous enfin, pas besoin de les mettre ensemble pour une scène d'attaque. Montrez-nous comment elles se battent individuellement de chacune de leur côté. Je trouve que ça fait vraiment. C'est pour faire plaisir. On dirait vraiment que c'est pour faire plaisir aux féministes. Allez hop, ça y est, c'est fait. Et je trouve que c'est mal fait. Je vois pas l'intérêt.
Bon, bah écoutez, moi je vais parler surtout de l'ambiance générale du film. Au début, j'ai trouvé que c'était assez bizarre parce que donc ça se passe 5 ans après que tout le monde soit mort. Et donc, parce qu'on oublie l'élément déclencheur qui relance toute l'intrigue, c'est un rat quand même qui marche sur un ordinateur. Et donc, si ce rat ça n'a pas marché à ce moment-là, donc il y a un univers où le rat n'a pas marché dessus. Donc, Scott Lang, Ant-Man, arrive à sortir de son monde quantique. Où c'est désolation. Je veux dire, la moitié des gens ont disparu. D'accord. Et il y a des poubelles partout. Je veux dire, mais c'est pas crédible. Alors d'accord, il y a deux fois moins d'éboueurs. Je suis d'accord, mais enfin, il y a deux fois moins de poubelles aussi. Donc je comprends pas. Et j'aurais aimé, alors évidemment, le film déjà dure 3 heures, donc je pense qu'ils n'avaient pas le temps de s'étendre, mais j'aurais aimé de voir qu'est devenu le monde. Est-ce que le plan de Thanos a marché ? Est-ce que oui ou non, finalement, c'était bénéfique ? Et il y a une toute petite phrase qui est là-dessus où c'est Captain America qui vient voir Scarlett et qui lui dit « Ah, t'as vu, l'eau est vachement bleue, on a vu des baleines à New York, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. » Mais à part ça, est-ce que oui ou non, le plan de Thanos a marché ? Parce qu'eux, ils veulent retrouver leur famille, ce que je peux comprendre. Mais comment va le monde ? Et t'as donc Scott Lang, là, Ant-Man, qui marche, qui voit les gamins traumatisés en vélo, qui leur répondent même pas. Et t'as un côté, t'as Hulk qui est dans un dîner et on prend des selfies avec lui et tout est monde de bonne humeur. Donc, je crois, le monde est traumatisé ou le monde n'est pas traumatisé ? Et ça, c'est pas du tout clair.
Oui, je vous ai pas exploité, effectivement, ces 5 ans, j'aurais bien voulu les voir un peu plus. J'ai presque l'impression qu'ils nous disent « Ok, ils ont tous disparu, allez voir The Leftovers et revenez. » pour la résolution, mais c'est vrai qu'on a envie de voir, à part qu'ils disent ah ouais, on est triste pour nos potes, on est triste, on voit la petite disparition, mais effectivement, c'est une ville
pour
fantôme.
Pour leur défense, c'est-à-dire que qu'est-ce que. Enfin, ça prend un temps fou, c'est un film.
Ah, mais oui, c'est un film.
Ils sont obligés de faire ça.
Mais ils n'ont pas peur de faire d'accord. Des films à 23 ou 22.
Non, mais là, j'espère, parce qu'il y a des séries comme Daredevil, comme Jessica Jones qui se passent dans cet univers-là, peut-être. Alors, je crois que la série a été annulée, mais peut-être qu'il y a une saison. Une série qui se passera pendant ces 5 ans-là. Parce que c'est
hyper intriguant, je suis d'accord.
C'est hyper intriguant.
Tu veux savoir comment ça fonctionne la moitié de l'univers.
Honnêtement, moi je pense qu'on peut retirer la moitié des univers sur cette planète. On arrivera à trouver un équilibre, surtout au bout de 5 ans. On y arrivera. Et
oui, les 3 premières années, ça va être un peu compliqué, et puis après ça se met en place.
Il y a un nouvel équilibre qui se fera, donc. Enfin, c'est mon avis, mais après là.
Hyper intriguant, mais, effectivement. Mais... Comment tout le monde se remet de ça ?
C'est vrai que c'est le scénario de Leftover.
Justement, je trouve que ce début, et moi, je reproche qu'il soit pas assez sombre. Je trouve qu'ils auraient pu vraiment. Ils auraient pu y aller, quoi. Après, on retournera dans un Marvel, mais ce début qui est vraiment très lourd. Enfin, quand même, ils ont perdu la moitié de leurs amis, de leur famille. Tout le monde a perdu la moitié de leurs proches. C'est dommage, je trouve, d'avoir. Très vite, ils basculent vers la comédie ou vers des moments légers. Et là, c'était vraiment l'occasion de faire. 20 bonnes minutes très sombres.
Ah, mais il y a Scarlett qui pleure, il y a le faucon qui est devenu un tueur à gages qui se met dans d'ailleurs très très beau plan séquence où il se passe à Tokyo là où il va tuer des yakuza, il était vraiment beau ce plan. Oui. Bon.
Moi je m'en fiche un peu. Ah ouais, j'aime le personnage Robin des Bois là, je le connais pas, je m'en fous complètement de lui donc et je trouve qu'il a vraiment une tête de con.
Ah moi aussi. moi sa coupe de cheveux ma
sa coupe de cheveux, sa tête de con, moi je préférerais que ce soit lui qui meure. Ah et d'ailleurs,
oui.
Pauvre Scarlett Johansson. Parce que Tony Stark, il a le droit à une super cérémonie. Et Scarlett, ils sont sur un ponton, ils font putain, c'est triste. Hein.
Ouais, bah oui,
la
mais.
Elle a pas de corps, mais la pauvre quand même.
Mais je crois qu'à ce moment-là, ils ont pas encore résolu leur problème. Ouais. Mais après, Tony Stark, dans l'univers Marvel, est infiniment fois plus important que Scarlett, quoi. Et justement, je trouve que la conclusion, parce qu'on sait que Robert Downey Jr. en avait marre de jouer Iron Man, et le mec qui joue que Captain America, j'ai oublié le nom, les deux voulaient quitter la série, et je trouve qu'ils ont trouvé des très belles fins pour les deux. C'est-à-dire que la fin est hyper classe, où il claque des doigts, il fait bah, « moi je suis Iron Man », qui était la réplique du dernier, du premier Iron Man, la dernière réplique, et puis il meurt, c'est sa dernière réplique, c'est-à-dire qu'après il ne dit plus rien, ils en rajoutent pas en disant « je t'aime » à Peppers, et puis Captain America, elle est super sa fin. Elle est super de remonter le temps et d'aller retrouver son amour, même si ça, on voit que ça n'a pas été préparé depuis 22 films, parce que tout le monde se plaignait que c'était un puceau qui faisait rien. Donc du coup, dans Captain America 2, je crois, il lui fout une petite copine qui est l'arrière-petite nièce de sa copine qu'il embrasse. Bon, finalement, il l'a un peu oublié. Et finalement, donc du coup, il retrouve sa belle, l'amour de sa vie. Il danse avec elle. Et d'ailleurs, c'est le dernier plan. Un dernier plan d'Avengers sur un couple qui danse dans les années 50, c'était quand même audacieux. Et je trouve que ça marche vachement bien.
Excuse-moi, mais moi, j'ai pas compris pourquoi justement il revient vieux, quoi. J'ai pas compris.
Voilà, en fait, si t'as vu Captain America 1, c'est un mec, il vivait dans les années 30 à la base. Captain America. Et puis, suite à blabla, plein d'anecdotes, il se retrouve plongé dans la glace. Il est congé pendant 70 ans, mais il était amoureux d'une meuf de l'époque. Donc du coup, normalement, ils disent « je vais remonter le temps pour remettre toutes les pierres au bon endroit » et le marteau de Thor qu'il prend. Et là, il était censé revenir, sauf que lui, il décide de pas revenir et de vivre 70 ans dans le passé pour vivre avec sa copine. Oui, même si vous avez attentif, c'est-à-dire que c'était pas dans l'univers où il était. Ça veut dire qu'il a fait dans un autre univers et qu'une fois que sa meuf est morte, parce qu'on apprend qu'elle meurt dans Captain America 2 à 70 ans, ou 90 ans, je sais plus, parce que quand il revient, elle a plus de 100 ans en tout cas, et après, il revient dans son propre univers à lui, sachant qu'il va rien faire, il sait très bien que Thanos va être battu, et il attend, et il vient redonner son bouclier. Cool. D'ailleurs, le Bucky, qui sert vraiment plus à rien depuis 3 films, je pensais que ça allait être lui, le nouveau Captain America. Beaucoup plus que lui, parce qu'il a pas spécialement de pouvoir, l'autre, il a des ailes, il vole. Je veux dire, ça va, le piston, quoi. Donne ton bouclier à Bucky, un peu, c'est ton meilleur ami.
C'est, pour le symbole, c'est plus cool que ce soit un Captain America Black.
Voilà. Oui, mais c'est parce que surtout, je crois que ça suit la BD, en fait. Dans la BD, c'est lui qui devient le.
Tu vois, Stan Lee avait déjà raison.
Et pour revenir dans Captain America, justement, j'ai beaucoup aimé les clins d'œil aux autres films. Et c'est que c'est le côté quand il arrive dans l'ascenseur, et que moi, c'est une de mes scènes préférées de Captain America 2, et tu crois qu'ils vont la refaire avec exactement le même acteur, et non, il arrive avec une astuce en disant c'est Hail Hydra, et qui est aussi une référence qui est un scandale dans la BD où on avait cru que Captain America était un nazi. Et donc, du coup, il prend le sceptre, et qui a la pierre de l'esprit, et il se barre. Et comme on dit, on est un peu déçu de ne pas avoir une scène d'action, ils en font quand même une avec le double de Captain America où il y avait plusieurs vannes. J'ai trouvé cette scène vraiment très bien écrite et très bien trouvée.
Oui, très bien.
Non, pas toi.
Si, c'est bien. Après, ça m'a fait penser à la blague sur C'est le cul de l'Amérique, qui revient 3 fois, où je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû sauver l'humour de Marvel. C'était quand même pas ouf. Mais il y en avait moins, en fait.
C'est vrai que c'était un peu lourd, ça. C'est pas la meilleure vanne du siècle.
C'est pas la meilleure vanne du film, c'est pas grave. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Tour final sur ce film, Yannick.
J'ai bien aimé. Pour 3 heures, honnêtement, ça passe très très vite.
Ok, Fiona.
J'ai bien aimé aussi. En revanche, je me dis que si j'avais assidûment suivi les 22 films, je pense que j'aurais été déçu. Je pense que j'aurais voulu encore plus de travail, qu'il n'y ait vraiment pas de faute de scénario et plus de spectaculaire.
Moi, je me dis le contraire. Il faut, en entendant Guillaume, je me dis qu'en ayant vu tous les autres films, tu dois kiffer d'autant plus.
Peut-être. Mais je sais pas, là, comme ça, je me dis... Là, je lui dis, oui, c'était un bon film, tout ça, mais je sais pas. Je sais pas pour les vrais fans hardcore ce qu'ils en ont pensé.
Ah oui, dernière question. La dernière fois, le dernier film, tu avais comparé ce film à Tinder, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Est-ce que tu en as pensé, cette fois-ci, vu que la moitié des personnages sont morts?
Du coup, c'est bien, la sélection se fait.
Naturel, oui.
Et du coup, Tinder, non, ça c'est plus sur un petit café de dating.
Voilà.
C'est plus sympa. Mieux.
Bah écoutez, moi j'ai trouvé ce film, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment très bon. J'ai trouvé, ça conclut, pas de façon magistrale, mais ça conclut ces 22 films, quoi. Ça fait 10 ans, là dans la même semaine, enfin dans le même mois, on a eu la chance d'avoir la fin de Game of Thrones. Ça fait 10 ans qu'on suit cette série télé, et la fin de la série Avengers, ça fait 10 ans qu'on la suit, quoi. C'est un moment historique pour les geeks, j'ai envie de dire, ce mois-ci. Et honnêtement, avec ce nombre de personnages et ce nombre d'intrigues, ils s'en sortent vraiment beaucoup. Alors évidemment, on le savait tous, on l'avait dit l'année dernière, qu'on savait qu'ils n'étaient pas vraiment morts, qu'ils avaient trouvé un moyen de les sauver. Et d'ailleurs, Marvel, ils n'ont pas attendu, il y avait déjà les bandes annonces des prochains films, donc il y avait déjà Spider-Man. D'ailleurs, Spider-Man qui revient à la fin, il y a son ami, le petit gros mexicain qui est là, donc c'est-à-dire que lui aussi, il est mort pendant 5 ans. Et je suis sûr que tous les mecs de sa classe, ils sont morts aussi pendant 5 ans, mais ça fout un sacré bordel. Hein. Parce que ça veut dire que tous les élèves qui avaient 5 ans, bah, ils ont grandi, comme la fille de Ant-Man, donc du coup, ils vont devoir refaire des classes des gens qui étaient morts. Quoi. Donc je pense que niveau paperasse, ça va être compliqué, là, ce qui va arriver. Mais honnêtement, c'est un très très bon film et je le re-regarderai avec plaisir. On enchaîne avec Détective Pikachu. Alors attention, c'est compliqué par qui ça a été écrit. Ça a été écrit par Dan Hernandez, par Benji Samit, par Rob Lenterman et Derek Connolly. Et c'est d'après une histoire de Nicole Perlman et d'après le jeu vidéo Détective Pikachu, d'après l'univers Pokémon créé par Satoshi Tajiri. Voilà, je pense qu'on a cité tout le monde. Fiona, c'est toi le pitch.
Dans un monde où les hommes et les Pokémon cohabitent et forment généralement des binômes, Tim, un jeune assureur, ne partage pas cet engouement pour ses créatures. À l'instar de Jean-Jacques Goldman, il marche seul, sans témoin, sans personne et sans Pokémon. Jusqu'au jour où on lui annonce la mort de son père, Harry Goodman, un policier très occupé avec qui Tim a coupé les ponts depuis près de 10 ans. Tim se rend donc à Rime City pour collecter les affaires de son père, où il fait la connaissance de son ex-partenaire, un Pikachu absolument adorable avec ses petites oreilles, ses petites joujoux et son petit pelage tout doux. Seulement, Pikachu a perdu la mémoire depuis l'accident de voiture qui a tué Harry et il a l'étrange particularité de pouvoir parler avec Tim alors que les autres Pikachu ne disent que Pika Pika.
Les autres Pokémon même.
Oui, mais là c'est Pikachu qui dit Pika Pika, oui. Sinon ils disent leur nom. Il dit Chalamet, Chalamet.
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas remarqué.
Si Pikachu ne se souvient de rien, il a néanmoins deux certitudes. La première, c'est qu'il est détective et la seconde, c'est que son partenaire Harry est toujours vivant. Avec l'aide de Tim, détective Pikachu, ça tombe bien, c'est le titre, reprend du service et mène l'enquête.
Alors, mon histoire avec Pokémon a commencé en 2000, quand Pokémon Jaune, ou 99, quand Pokémon Jaune est sorti sur Game Boy. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais prêté, Yannick. Et j'avais dit, je vais y jouer jusqu'à ce que ça devienne ridicule. Et une heure après avoir commencé, il y a une espèce de gros Pokémon qui s'appelle Ronflex, je crois, qui est posé sur, un ponton, on ne peut pas passer. Et je suis venu te voir, Yannick, j'ai dit, comment on fait pour passer? Et tu m'as dit, il faut aller chercher la Pokéflûte. Et là j'ai dit bon bah merci et j'ai plus jamais rejoué à Pokémon de ma vie. Donc pour dire que je n'y connais rien à l'univers Pokémon, je connais à part Pikachu. Si j'ai un petit peu joué à Pokémon Go parce que bon c'était la mode il y a 2 ans, sinon j'y connais rien. Et pourtant je trouve que pour les néophytes totaux comme moi, eh ben ils arrivent quand même à l'univers certes c'est très explicatif, mais ils arrivent à te rendre l'univers intéressant et très compréhensible, alors que c'est quand même un univers avec des espèces de monstres qui te lèchent dans les trains. Et pourtant je veux dire j'étais pas perdu. Cédric.
Ouais, je suis assez d'accord sur l'exposition du film. Moi, j'ai bien aimé aussi tout le début. J'ai bien aimé le duo de personnages. Je trouve que ça fonctionne bien. Les dialogues sont bien écrits. Pikachu a de la répartie. C'est assez drôle. Et après, la deuxième partie du film, par contre, j'ai complètement décroché. Là, ils m'ont complètement perdu.
Ah, c'est à partir de quand que tu t'es dit c'est fini?
Le labo?
Ouais, exactement. Ouais. À partir du moment où, en fait, on quitte l'enquête. J'étais un peu déçu moi de quitter l'enquête parce que ça s'appelle Détective Pikachu. Je me disais bon bah on va avoir une enquête et en fait on a un prémisse d'enquête mais qui très vite s'arrête. Et après la deuxième partie du film, on est dans une espèce d'ersatz d'Avengers avec des Pokémon quoi. Et il faut encore qu'ils détruisent la ville et il faut encore qu'il y ait un Pokémon surpuissant.
Ah mais faut bien qu'ils mettent un peu d'enjeu là quand même.
Bah, je sais pas parce que il y a des enjeux émotionnels qui sont là.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Ils auraient pu garder justement ce principe d'enquête. Et faire un vrai polar avec des Pokémon.
Très bien, Fiona.
Moi, j'ai trouvé, comme vous, que l'univers était vraiment, vraiment chouette. Pour moi, le plus absolu, je l'ai dit dans le pitch, mais c'est Pikachu. Qu'est-ce qu'il est mignon, je pourrais le regarder pendant des heures.
C'est vrai qu'il est mignon,
ouais. Ah, je pourrais le regarder, je fais, oh, juste, mettez-le moi sur l'écran. Juste, qu'il bouge pendant 2 heures, ça me va très bien, il est tellement mignon.
D'ailleurs, ils ont fait plein de séquences promo qui sont pas dans le film, où ils dansent.
Non, mais vraiment, là, tu veux une peluche aussi bien réalisée que ça, c'est tellement mignon.
C'est vrai que t'as envie d'avoir un Pikachu.
Mais je trouve que le plan du méchant se tient.
Alors là, je suis pas d'accord.
Si, si, tiens.
Bah non,
mais son idée, son objectif.
Bah oui, mais parce que
son objectif.
Non, parce que son objectif, moi, pour moi, c'est un mec qui est malade et donc il en a marre d'être dans une chaise roulante. Il sait qu'il va mourir, donc il dit la seule façon de ne pas mourir, c'est d'injecter mon âme, mon cerveau dans un Pokémon. Lui, très bien. Mais pourquoi est-ce que tu veux que tout le monde fusionne avec son Pokémon?
Oui, mais là, c'est le côté grand méchant qui dit en gros, ils sont plus puissants que nous, les Pokémon.
Bah oui, mais tout se passe bien. Donc, son objectif personnel, je le comprends, mais je n'ai pas compris pourquoi d'un seul coup il dit hop, tout le monde se change en son Pokémon.
Je pense que c'était dans l'idée, pour moi, mégalomane.
Surtout pour faire une grosse scène d'action dans la ville entière.
Aussi, mais bon, pour le plan, moi, ça m'a pas dérangé qu'il veuille que tout le monde fasse comme lui aussi. Bah aussi parce qu'il va, pareil, il va vivre comme un Pokémon, comme un con, tout seul. Quoi.
Mais enfin, il a pris le Pokémon le plus puissant. Oui, alors, je m'y connais pas, mais apparemment, c'est le Pokémon carrément qui a créé l'univers. Je crois, je suis pas sûr. Yannick, peut-être.
J'ai plus joué à Pokémon, mais pas à ce point-là pour savoir tout ça.
Cédric, toi, tu t'y connais en Pokémon?
Pas du tout, non.
Bon.
Mais alors, par contre, contrairement à toi, j'ai trouvé qu'en fait. J'ai pas trouvé ça très drôle. En fait, c'est un film familial. Et pour moi, ce film a le cul entre deux cibles. Je trouve que c'est trop adulte et trop enfantin à la fois. l'intrigue, je pense, pour les petits est un peu trop complexe et pour les adultes est trop attendue. Et l'humour, pour moi, ne fonctionne pas parce que justement, il est un peu trop grand pour les enfants beaucoup trop sous Deadpool, parce qu'il y a quand même des Roland de Deadpool hein,
il y en a,
assez fort
ouais,
hein.
Vrai, ouais.
Pour les adultes,
quand ils se pissent
dessus, j'ai l'impression qu'à vouloir plaire à tout le monde, ils satisfont personne.
Pour moi, c'est un film pour ados. Hein.
Je sais pas.
Les enfants s'y retrouvent.
Hein. Alors, ça, c'est intéressant parce que pour moi, c'est un complet film pour enfants. Hein. C'est vraiment. Ouais. Ils ont essayé de mettre. Parce que l'intrigue, elle n'est pas du tout compliquée, comme dit Cédric. Ils suivent quelqu'un.
Dans Avengers non plus.
Oui, voilà. Mais je pense qu'un gamin peut très bien suivre l'intrigue, même si on lui agite plein de Pokémon, plein de monstres intéressants à regarder. C'est pas très compliqué. Le retournement, on le voit venir à des années-lumière.
C'est pour ça que je dis que c'est pas pour adultes.
Mais c'est pas pour adultes. Pour moi, c'est clairement un film pour enfants.
Ouais, mais à ce moment-là, l'humour n'est pas adapté du tout aux enfants.
Ah, je suis pas d'accord. Pikachu fait des petites bêtises.
Il fait des blagues de prout quoi.
Il fait des blagues de prout. Puis regarde quand il se fait caresser comme un chaton là.
Il y a deux blagues dans tout le film.
Bah, je me souviens plus de toutes tes blagues. Mais tu vois, pour dire que la blague moi qui certes c'est plus adulte. Enfin, pour moi c'est je trouve le meilleur moment du film, c'est quand ils vont interroger l'indique et qu'ils se rendent compte que c'est un mime. Et là je trouve que justement là c'est très dur dans un film de nous faire entrer dans l'univers et ses propres règles et d'arriver à nous faire rire avec ça et de créer d'utiliser les règles à la perfection. Et là ce mime, on sait même pas si c'est vrai ou si c'est faux, le fait qu'il a des murs, mais l'acteur, enfin le personnage principal dont j'ai oublié le prénom, Tim, comprend comment marche le Pokémon et va tourner ses pouvoirs contre lui, c'est-à-dire en prenant un bidon d'essence qui n'existe pas et en l'aspergeant.
Oui, mais justement, peut-être parce que je travaille aussi, j'écris aussi pour les enfants, même si on ne le voit pas, ça dépend. En fait, je sais pas. Le problème, c'est que je ne sais vraiment pas quelle est la cible. Je ne sais pas à qui c'est adressé.
Je vois ce que tu veux dire. La règle pour les enfants, quand on écrit des dessins animés, nous, c'est rien de reproductible.
Oui, c'est ça.
Mais étant donné qu'il fait semblant d'avoir un bidon d'essence.
Rien que l'idée de l'image, parce que les enfants aussi, tu leur dis quelque chose, ils le voient. Enfin, pour le coup, il y a pas besoin de mime.
C'est vrai que c'est pas trop une blague pour enfants.
Et du coup, c'est pas une blague pour enfants de dire on va te foutre le. On va foutre le feu à monsieur.
Regarde, en plus, il tourne la scène complètement en dérision quand il fait semblant d'allumer les allumettes. Le Pokémon mime qui s'ouvre dessus. Enfin, tu vois, c'est extrêmement tourné à la comédie. Et en plus, il cut avant qu'il brûle. Donc,
Non.
Non, j'ai trouvé cette scène vraiment. Pour moi, c'était ça le film. C'était l'univers parfaitement utilisé dans cette scène-là.
Bah, oui, ça, je veux bien, mais après, je trouve que voilà. Pour moi, ça n'a pas trouvé sa cible. Il y a aussi des incohérences. Je ne comprends pas pourquoi Tim est le seul à entendre Pikachu parler. Parce que si c'est vraiment. En fait, c'est. Donc le twist. C'est que le Pikachu, en fait, s'il peut parler comme ça, c'est parce que c'est Harry que Mewtwo a foutu dans le corps
Harry,
le père de Tim, a foutu dans Pikachu. Alors là, pourquoi, on ne sait pas. Le temps de le soigner, j'imagine, alors qu'il a soigné Pikachu en une seconde. Je ne sais pas pourquoi il a gardé le corps de Harry longtemps, je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison à ce que Mewtwo fasse ça, donc ça, c'est une des questions. Et du coup, s'il a mis Harry dans le corps de Pikachu, pourquoi seul Tim peut l'entendre, ça n'a aucun sens puisque après quand tout le monde prend la place de son Pokémon, ils s'entendent tous.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils parlent même pas quand ils ont tous la voix. Mais oui, c'est vrai que et surtout le Mewtwo là, je comprends pas pourquoi est-ce que comme tu dis, il soigne pas le père tout de suite alors qu'il peut soigner Pikachu tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il efface la mémoire de Pikachu quel intérêt? Et surtout, il lui demande.
Il efface pas sa mémoire. En fait, il lui prend la. En fait, là, le pauvre Pikachu, c'est une marionnette. C'est plus Pikachu qui est dans le corps de Pikachu à ce moment-là.
Non, mais si, il dit, je t'efface la mémoire. Ah, tu penses que c'est le père. Et je lui dis surtout, va me chercher mon fils, mais je te dis ça, et après, je t'efface la mémoire. Donc, tu te souviendras même plus de ce que tu devais faire. Quel intérêt d'effacer la mémoire d'un mec.
Il lui efface la mémoire ou aussi un effet secondaire?
Ah, non, il lui dit, je vais t'effacer la mémoire, et je te donne une mission, et juste après, je t'efface la mémoire. Mais c'est complètement débile
c'est
comme plan. Sa mission, c'est d'aller chercher le fils. Pourquoi, je ne sais pas. Et il dit, va me chercher le fils de Harry, et comme ça, je pourrai soigner Harry. Pourquoi?
Le fils de Harry? Alors en fait, quand il plaît l'accident, il parle déjà de Tim, Mewtwo?
Oui. Il lui dit, ta mission, ah oui, Pikachu, okay, c'est d'aller me chercher Tim. Et à la fin, justement.
C'est très bizarre. Alors,
à la fin de l'acte 2, quand t'as Pikachu qui se retrouve face à Tim, il fait, ah, t'as réussi à ta mission, tu m'as ramené le fils, c'est super. Il lui montre le flashback, ça, c'est hyper bien fait, les flashbacks et les hologrammes qui sont 3D magnifiques. Et là, donc là, on croit qu'on va savoir la fin du film, sauf qu'il y a le faux fils du méchant qui était en fait le Pokémon qui pouvait prendre les corps, qui attrape Mewtwo pour la deuxième fois, il est vraiment pas malin ce Pokémon, qu'il a, il a rien vu venir, et on dirait Daenerys sur son dragon, mais on y reviendra. Et donc on croit que là on va avoir la révélation de je t'ai demandé d'aller chercher mon fils, sauf qu'on l'a après la fin du film, mais on ne sait toujours pas pourquoi il a demandé d'aller chercher son fils.
Oui, non,
en quoi aller chercher le fils d'Harry permettre de soigner Harry?
Non, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc oui, effectivement, donc ça n'a pas de sens. Dans les non-sens aussi, enfin, je ne comprends pas comment fonctionne ce gaz violet et comment ses effets s'arrêtent. Parce que
je pense avec le temps.
On dirait que ça se dissipe. Oui, mais donc du coup, quel est le plan du méchant? Alors, je retire ce que j'ai dit. Ne fonctionne pas, parce que même s'il met des gros ballons partout de Pokémon remplis de gaz, mm-hmm. ben, à un moment, ça va se dissiper.
Non, oui, mais non, si c'est pas ça. Il dit que le seul moyen de fusionner une personne et un Pokémon, c'est quand il est en état de transe. Donc il met le gaz pour les mettre en état de transe, et juste à ce moment-là il les fusionne, et après tac tac c'est fait. Après même s'ils sont plus en transe, trop tard la fusion est faite.
C'était pas très clair pour moi.
Pourtant, je crois que c'est ça.
Et pourtant je suis une adulte, j'aurais dû comprendre. Voilà. Après sur les personnages, moi je les ai trouvés trop superficiels, moi je trouve qu'ils sont pas très intéressants.
C'est un film pour enfants, oui, mais fois, c'est des archétypes.
Je trouve la fille elle est vraiment pas terrible.
La fille on l'avait oublié.
La fille elle est vraiment nulle. Hein.
Le personnage féminin fait rien du tout. Mais le héros non plus en fait, sur la fin, Tim il fait rien.
C'est vrai que je me souviens plus ce qu'il fait à la fin.
Il fait rien du tout, il est suspendu à une fenêtre et il y a un autre personnage qui vient le sauver, qui est un personnage secondaire. Et bon, Pikachu retrouve ses pouvoirs et lui, il agit un peu plus, mais... Et c'est vrai que ça m'a gêné quand même que le héros du film ne fasse rien dans la résolution.
Et puis, moi, j'ai eu un manque aussi sur sa backstory, qui est censée quand même justement être l'enjeu émotionnel. Moi, je comprends pas déjà sa haine des Pokémon, enfin sa haine. Pas qu'il a une haine, son rejet des Pokémon.
C'est vrai que j'étais persuadé qu'on allait apprendre que c'est un Pokémon qui avait tué son père. Quoi. Je me suis dit, on va tomber dans le cliché absolu, mais non, ils le font pas.
Ça aurait expliqué pourquoi sa haine à des Pokémon alors qu'il voulait être dresseur quand il était petit. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que du coup son père s'est plongé dans le travail et du coup passé sa vie avec des Pokémon parce qu'il travaillait avec des Pokémon? C'est bizarre. Enfin, c'est pas la faute des Pokémon, c'est la faute de ton père. Oui. Donc je trouve ça un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi il est aussi solitaire aujourd'hui, pourquoi il s'est fait, enfin je comprends pas bien ce personnage, donc j'ai pas trop accroché. Et ce qui m'a manqué aussi, c'est l'émotion, parce que quand Pikachu se fait blesser par un petit caillou,
oui.
je sais pas, on est, alors qu'il est tellement mignon, mais pourtant on est pas triste pour lui, enfin je et j'avais en tête, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas, mais il y avait un film Pokémon, tu l'as vu. Alors le film Pokémon en dessin animé. Mais mon Dieu, je me souviens avoir pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, quoi.
Je l'ai pas vu, mais c'est marrant parce que j'ai reparlé de cette scène justement après avoir vu Détective Pikachu. Ouais. Et effectivement, cette scène marchait beaucoup mieux. Ouais.
Cette scène, elle était super. C'est donc dans le film, pour expliquer rapidement, donc il y avait une histoire de clonage de Pokémon. L'intrigue était vachement bien d'ailleurs, je pense, si ma mémoire est bonne. Et à un moment, c'est Sacha et sa moitié sacrifiée est mort, et il est dans une arène avec plein de Pokémon. Et donc les Pokémon et leurs clones en plus avec lesquels ils se battaient avant. Ah oui, d'ailleurs ils se battaient, c'était horrible, ils pleuraient, ils se battaient, c'était affreux. Et Pikachu est devant Sacha qui est mort, et il essaie de le raviver avec ses éclairs, et il fait Pikachu, Pikachu, et ça dure des plombs, mais on se dit le pauvre, il pleure, il dit Pikachu. Ah, et vraiment tu dis c'est affreux, cette scène elle est affreuse, le deuil est horrible. Et après tous les Pokémon, ils pleurent tous, Sacha, et en fait c'est les larmes de tous les Pokémon, les clones et les vrais, qui sauvent Sacha. Oh, c'était tellement bien.
C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'au moins il est vivant, Sacha?
Oui, ça le sauve, les larmes. Non, mais là, pour le coup, il y avait vraiment de l'émotion. Et là, il y a zéro émotion.
Bah oui, enfin,
oui, j'avais de l'émotion, Yannick.
Oui, mais enfin, on se doute bien.
Cœur de pierre.
La première film, c'est que c'est une très bonne scène avec l'espèce de Pokémon tortue qui sont devenus grands, qui sont des montagnes entières. C'est magnifique, mais ça sert à rien, surtout qu'ils se lèvent.
Ça sert à rien du tout.
Et puis, ils se reposent, bon, je sais pas pourquoi. C'est ça, c'est qu'on se doute bien de toute façon qu'il va pas mourir, Pikachu. Alors, les montagnes se lèvent, ça fait des énormes rochers qui tombent par terre. Et il y a un tout petit caillou, comme tu dis, qui touche Pikachu, puis d'un seul coup, il va mourir. Enfin, on se doute bien qu'il va pas mourir. Et là, il va falloir qu'on accélère, mais un des problèmes de film, c'est un détail, mais c'est qu'à un moment, il se retrouve dans une arène donc, de Pokémon pour combattre. Donc c'est quand même des Pokémon qui crachent du feu, qui crachent de l'électricité. Qu'est-ce qui protège le public? Un grillage. C'est-à-dire que t'as le Pokémon qui fait une espèce de lance-flamme. Ah oui, ça va vachement te protéger, ton grillage. Hein. Mais il doit y avoir 50 morts par nuit dans cette espèce d'arène Pokémon. Mais ça a l'air de déranger personne. Donc. Bon, tour final sur ce film, Cédric?
Bah, moi, je le recommande pas. Mais après, comme je suis pas familier de l'univers Pokémon, je suis peut-être pas le plus à même à juger le film.
Alors,
oui, Fiona.
Moi, je le recommande pas non plus. Parce que je trouve qu'en fait, on l'oublie à l'instant même où on est sorti de la salle, vraiment. Alors, c'est joli, il y a des... mais c'est pas assez joli pour n'y aller que pour ça. Juste regarder les petites vidéos promo avec Pikachu, c'est trop bien.
Voilà, il revoyait Spider-Man.
Oui, non, mais si tu compares à Spider-Man. Oui. Mais honnêtement, moi j'ai.
Ah, ça faisait ballon, ouais.
Honnêtement, je trouvais ça sympathique. C'était pas le meilleur film de l'année, je le reverrai pas. Mais honnêtement, enfin, j'ai passé un bon moment. C'était, je crois, il dure 2 heures le film. Ça passe, les Pokémon sont mignons. Ah oui, aussi la ville qui est entièrement créée pour que les humains et les Pokémon vivent en harmonie. Donc concrètement, je crois que j'ai compris qu'elle a été construite en 10 ans. On va m'expliquer comment on construit une ville aussi grande en 10 ans. Et puis clairement, c'est Londres. Hein. Arrêtez de nous faire croire que c'est Tokyo.
Non, il y a un
c'est,
peu de Tokyo, il y a un peu de New York, il y a un peu de tout. C'est un mélange.
Clairement, Londres. Il y a la tour de Londres au milieu de la ville. Mais bref. On termine avec The Dead Don't Die, écrit par Jim Jarmusch. Et c'est Cédric qui nous pitch.
Une série de phénomènes inhabituels s'abat sur la paisible communauté de Centerville. Les jours et les nuits sont inversés, la lune est omniprésente dans le ciel et les animaux deviennent agressifs. Personne ne sait ce qui se passe. Les nouvelles sont inquiétantes, mais le pire est à venir car The Dead Don't Die. Les morts sortent de leur tombe et s'attaquent aux vivants pour s'en nourrir. Une longue nuit commence pour les habitants de la ville.
Très bien, Fiona.
Je vais commencer par les points positifs.
Ça n'a pas duré longtemps.
Il y a des moments drôles. Tilda Swinton qui maquille les cadavres.
Ça t'a fait rire, ça ?
Oh, je trouvais ça. Elle était folle. Je lui ai dit, oh, pourquoi pas ? Les ding-ding.
Ça...
Ah,
j'ai trouvé non, ça mais lamentable. La fin...
pas drôle,
lamentable.
Bon, okay. Moi, j'essayais de trouver une raison d'être.
Pardon.
Non, c'est vrai.
Non, voilà, je me suis dit, bon, il y a des petits moments. Quand ils découvrent le corps les uns après les autres dans le diner, ça peut faire, ouais, voilà, ça peut faire rire des gens. Je comprends l'intention. Maintenant. À part quelques petits moments drôles, donc chacun va trouver à son goût par-ci, par-là, c'est une daube absolue. J'ai détesté ce film et j'en suis même sortie très énervée parce que ça ne raconte rien, c'est que du vent, c'est pas intéressant, les personnages n'ont pas de fond, sont pas traités, c'est superficiel, ils sont tous débiles, ils tiennent même pas leur genre de comédie parce qu'il y a 2 scènes qui brisent le quatrième mur. Qui nous rappelle que c'est un film, puisque ce sont des personnages dans une voiture qui parlent du script, clairement. Et en fait, voilà, ce qui m'a vraiment super énervée, c'est que pour moi, c'est l'auteur-réalisateur qui s'amuse avec ses acteurs.
Ouais, c'est un film de potes. Hein.
Ah, c'est vraiment un film de potes. Et le comble de l'égocentrisme et le comble de, pour nous sortir de là, je trouve que c'est justement dans une des scènes qui brise le quatrième mur. Il s'autocite, quoi. Il se cite, il fait « Ah ouais, oh là là, je sais pas comment il s'appelle, Samuel.
Jim.
Samuel, quel connard. Ah ouais, ouais. » Je dis « Mais alors là, mais t'es tout seul dans ton salon, mon gars. Hein. » je me suis vraiment... En plus, je les ai imaginés. En fait, pendant le film, je les ai imaginés en réunion. En train de se gosser. Ah là là, je trouvais ça...
Mais c'est des potes connus, donc...
Ouais, c'est des potes connus, donc on peut faire ce qu'on veut. Ah non, mais là, ça m'a rendu folle de rage, vraiment.
Bon. Attends, essayons d'apporter un peu de nuance. Yannick.
Ah non, moi j'ai trouvé ça chiant à crever. Je suis sorti avant la fin pour tout.
Bon, on va tous dire un point positif sur ce film, parce que... Alors, essaye de trouver quelque chose de positif.
Non, et l'ambiance. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance au début, l'espèce d'Amérique un peu du fin fond de nulle part. Je trouvais ça plutôt sympa. J'aimais bien, en fait, jusqu'à l'arrivée des morts-vivants, j'ai trouvé ça pas horrible. Voilà, je vais utiliser le bon mot. Et à partir des morts-vivants, c'est fini pour moi. Ils m'ont lâché, quoi. C'est trop long pour attendre des mecs pareils. Non, j'ai cru à rien, c'est nul. Enfin, les personnages disent ce qu'ils ont envie de dire. Enfin, c'est horrible. J'ai trouvé ça d'une... Et le pire, c'était la salle, les gens autour de moi.
Ah.
Ils se disaient, mais j'ai payé 13 balles pour ça. Vraiment, ils étaient en colère. Je pense que j'ai vu tes
coups. Bah, honnêtement, moi, la salle, j'ai vu donc, comme une grande salle au hall qui était pleine. Et la moitié de la salle était morte de rire. Mais à la moindre blague, c'est-à-dire quand le personnage là, qui joue dans Star Wars arrive avec sa smart, mais les gens morts de rire.
Mais,
et l'autre moitié de la salle était consternée.
Mais moi, j'ai pas vu les blagues. J'ai même pas vu les blagues.
Mais quand il arrive avec sa smart, ça t'a pas fait rire ?
Ah non, mais pareil, alors
c'est normal.
Moi, je suis allé le voir un soir de semaine tard, donc il y avait on devait être 6 dans la salle. Et il y avait une personne, mais pas qui rigolait, mais dès que quelqu'un ouvrait la bouche, il faisait. En plus, avec un rire comme ça, c'était horrible. Ça m'a pas
gueulé. Se reconnaîtra.
Et à un moment, je me suis dit, et j'étais avec une copine, je me suis dit. Putain, je crois que ce mec est handicapé mental. Non, parce qu'il avait un rire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, comme il n'y a rien de drôle, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi il rigolait, je me suis dit, ah, le pauvre, à mon avis, il a un problème. Et je l'ai croisé à la sortie, et non. Donc ça peut faire rire des gens.
Bon, on se
dire la même chose de vous.
Voilà, on ne se moque pas des handicapés
non,
mentaux.
Mais non, mais pas du tout, je ne me moque pas des handicapés mentaux. Mais non,
c'est une honte.
Pas du
honte.
Tout, au contraire,
bon,
attends, je pensais que tu dis, ah, il doit avoir un petit problème.
Ça suffit, Fiona. Cédric, dis quelque chose d'autre.
Je vais avoir du mal, hein. Je vais avoir du mal à défendre ce film, moi aussi. Hein. J'ai trouvé ça paresseux. Allez, il y a 2-3 scènes un peu jolies. La scène dans la voiture qui est éclairée avec les gyrophares. Il y a 2-3 séquences comme ça. J'ai bien aimé la blague sur la fracturation hydraulique au pôle Nord qui... qui fait dévier la Terre de son axe et on ne sait pas si c'est ça qui provoque tous ces phénomènes ou pas. Bon, mais ouais, non, c'est pas très.
C'est pas terrible. Écoutez, moi, là, quand on est à Los Angeles, justement, j'ai regardé un film dans l'avion qui s'appelle 15h17 pour Paris, film de Clint Eastwood sur l'attentat du mec dans le train. Et c'est la première fois que je voyais un film qui était ni fait ni à faire. C'est-à-dire que non seulement c'était nul à chier, mais en plus il fallait même pas faire ce film, c'était une mauvaise idée. Alors que là, dans ce film, je pense qu'il y avait quand même une bonne idée. Le mec voulait faire un film de zombies absurde. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que c'est complètement raté. Et alors, parce que, qu'on le veuille ou non, il a quand même essayé de faire une comédie avec zombies, on est à des années-lumière de Shaun of the Dead.
Ouais, bah ouais.
Mais des années-lumière.
Il arrive trop tard, hein. Bien trop tard.
Oui, mais il a forcément vu ce film, donc il s'est dit, je vais pas y faire exactement le même humour, je vais faire un humour absurde, mais même l'humour absurde, il le tient pas jusqu'au bout. Peu importe les erreurs de scénario, il fait lol, c'est absurde. Bah oui, mais non, ça ne tient pas. Comme tu parlais au Fiona tout à l'heure, tu disais le quatrième mur. Au début, t'as le flic là, qui joue dans Star Wars. Je suis désolé, j'ai oublié
Adam
son
nom.
Adam qui dit tiens, c'est la musique, elle me dit quelque chose cette musique. Bah oui, c'est la musique du film. Donc clin d'œil, la Bill Murray ne réagit pas. Et à la fin du film, on apprend que lui aussi, en fait, il savait que c'était un scénario et que lui aussi, il avait les pages. Bah oui, mais c'est pas logique, pourquoi t'as pas réagi à ce moment-là ? Et ça, c'est vraiment le côté, j'imagine très bien le réalisateur et le scénariste elle-même, ouais, qui s'est dit, on s'en fout, c'est de l'absurde. Bah oui, mais même dans l'absurde, on peut être logique.
Non, mais on peut être logique et on peut avoir une histoire. Effectivement, bah, moi, je pensais à... J'imagine qu'il y a d'autres comédies de zombies, mais forcément, moi, ma référence, et la seule que je connais, c'est Shaun of the Dead. Et dans Shaun of the Dead, bah, y a une histoire, il y a des personnages, il y a une progression, ouais, et il y a un personnage qui évolue en plus. Mmh. Là, on a des personnages qu'on connaît pas, dont on se fout complètement.
Les trois jeunes.
Qui prennent des décisions débiles. À un moment, les jeunes disent, je sais pas où on peut se cacher. Ils disent, oui, je sais où on peut se cacher. D'ailleurs, on les revoit plus jamais.
On
je
les
revoit
plus.
Ouais. On les revoit plus jamais. Eux, ils ont.
Les trois jeunes en voiture.
Non, les trois petits gamins.
Les trois gamins.
Enfin, les deux petites filles.
Je les avais carrément.
Oui, non, ils partent. En fait, c'est juste pas bouclé. On les voit pas ni morts. On les voit, on les oublie. C'est pas grave.
Non.
Et en plus, elle dit, je sais où est-ce qu'on peut se cacher. J'ai envie de dire, bah, dans le placard où t'étais, où personne t'emmerdait. Retourne-y. Enfin.
Ah si, parce qu'il y a tous ces moniteurs qui se sont fait tuer, donc je peux comprendre ce qu'ils paniquent.
Tilda Swinton, donc, qui est une extraterrestre qui part en soucoupe volant, elle a fait, on sait pas, enfin pourquoi, on ne sait pas.
Mais pour le lol.
Parce que c'est marrant.
Parce que c'est lol.
Mais qu'est-ce qui est lol là-dedans? Je ne comprends pas.
Mais écoute, la moitié de la salle a trouvé ça lol. Donc, j'aimerais juste demander, Yannick, j'aimerais avoir ton avis sur le fait que justement Tilda Swinton parte en soucoupe volante.
J'étais parti avant.
Ah.
Mais on m'en a dit beaucoup de mal.
À quel moment tu es parti exactement du film?
Je suis parti quand les zombies attaquent la quincaillerie.
Donc en fait,
avec t'as... Danny Glover à la fin.
Donc en fait, t'as trouvé le film trop long et à partir du moment où les zombies se sont mis à attaquer, t'es parti quoi.
Non, faux. Ça faisait au moins 15 bonnes minutes qu'ils attaquaient.
15 bonnes minutes. Non, parce qu'en plus, on voit qu'il essaye de faire un côté. Je critique les États-Unis parce que les zombies refont ce qu'ils faisaient le plus dans leur vie. Donc,
Romero avait déjà fait ça.
Mais oui, mais ça, c'est complètement raté.
Mais justement, les zombies, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du wifi? Ils veulent manger des gens? Ils veulent du café ou ils veulent du sang?
Non, ils ont des résurgences de leur ancienne vie humaine, mais ça, Romero le faisait déjà pour critiquer une espèce de société de consommation où on est des zombies.
De toute façon, les films de zombies, c'est des films sociaux, c'est des films qui sont là à travers le fait qu'il y a des gens qui courent et qui sont bouffés. C'est là pour critiquer la société, mais là, on n'y croit tellement pas, c'est tellement pas crédible, c'est tellement mal fait.
Que ce soit un film critique, c'est juste un.
Non, je pense que alors peut-être son message c'est ah oui, bah voilà, le seul qui s'en sort, c'est l'ermite.
Non, ça fait vraiment film de pote, t'as l'impression qu'il...
Et peut-être les enfants juvéniles là, du centre des
oui,
enfants, parce qu'on les voit pas,
bah, en fait, on sait pas.
On peut imaginer ce qu'on veut. Hein.
Ah, parce qu'il y a Selena Gomez quand même.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les trois jeunes là qui arrivent, qui ne servent à rien, mais ils sont là, ils arrivent dans le motel. Ah, vous avez une super voiture, oui, merci. Et puis ils vont dans le motel, et puis tu les retrouves morts. Quoi, ils ont servi ils ont Steve Buscemi, il ne sert à rien. Il meurt en loin comme ça. Voilà, c'est un raciste qui se dit putain, on a piqué mes vaches, et puis voilà, point. Enfin,
non,
meurt,
mais
enfin.
Rien ne sert à rien dans ce film, c'est ça qui est horrible. C'est vraiment horrible. Une petite scène là, j'ai bien pensé, qui m'a fait sourire, c'est quand justement Adam Driver va voir les jeunes morts du coup dans leur chambre d'hôtel, et qu'on se dit, ah, il avait bien aimé Selena Gomez, il va peut-être hésiter une seconde avant de lui trancher la gorge. Il hésite, on se dit, ah, il peut pas le faire, et en fait, c'est parce qu'il regarde ailleurs, il lui tranche bien la tête. Bon ben pourquoi pas, voilà.
C'est,
non mais
c'est bien niveau
sauve,
quoi.
Je sauve, je fais ce que je peux, vraiment. C'est vraiment c'est honteux de faire des films comme ça.
Et il était en ouverture de Cannes quand même. Hein.
Non.
Si. Mais hors compétition, je
crois. Ah, hors compète, ça me rassure.
Mais en fait, là tu l'as pitché, t'as mis vachement d'efforts pour le pitcher.
Oui, bravo pour ton pitch.
Bravo pour ton pitch. parce que le pitch, c'est la Terre s'est désaxée, du coup il y a des zombies et on suit ça dans une petite ville.
Ah, parce que ça, c'est le pitch de tous les films de zombies, hein. Non, mais même ceux qui sont réussis. Hein.
Bah, Shaun of the Dead, c'est pas ça, par exemple.
Oui, d'accord. Enfin, le jeu La Nuit des Morts Vivants, c'est ça.
Il y a pas de protagoniste, il y a pas d'histoire, il y a pas d'intrigue.
Ah non, mais je
si, il y a deux protagonistes. Protagonistes, c'est Bill Murray et Adam.
Oui, mais ils sont quand même débiles.
C'est
en plus,
un film de
potes
avec
que...
un casting de fous et
ils font strictement rien.
Il y a un casting de malade.
Pareil, il nous installe aussi que la nuit, donc les horaires sont décalés. Et que du coup, il fait encore jour à 22h et on ne sait pas trop quand tombe la nuit. Mmh. Mais apparemment, pendant le jour, il n'y a pas de zombies. Donc, ils viennent que la nuit. Bah, je ne sais pas, tuer tous les zombies la nuit.
Oui, ils sont où les zombies le...
Oui, tuer les zombies le jour. Enfin, je ne sais pas.
C'est vrai qu'ils ne sont pas fait chier quand même.
Quand tu vois que la scène où tu as Danny Glover et l'autre, là, le geek, ils se font avoir parce qu'ils n'ont pas fermé la porte de derrière. Là, pareil, c'est le mec qui dit oh, on s'en fout, c'est lol, c'est absurde, c'est rigolo.
Raison, ils ont tout misé sur l'absurde.
Ouais, mais.
Bah oui, mais
on
c'est
s'en fout.
Raté,
ah,
mais...
ma grand-mère, ah, je sens là.
Je sais pas, parce qu'un film comme Fargo, par exemple, qui utilise un peu ce type d'humour, un peu lent, un peu absurde, c'est réussi, quoi. Ouais,
mais oui, mais c'est un film de personnage, Fargo.
Ouais, tu veux pas comparer.
Oui, oui,
tu peux même pas les mettre dans la même phrase, je pense.
L'ambiance m'a fait un peu penser à Fargo au début.
L'ambiance dans le sens,
je
dans le sens
d'atmosphère,
petite ville américaine, ouais, mais non, c'est l'enfer.
Ouais, enfin, si tous les films où c'est, ça passe dans une petite ville américaine, ça fait penser à Fargo. Enfin, il y a même pas de neige.
Non, pardon. Mais tu vois le small, tout ce qui est small talk entre les personnages, qui parlent de choses ultra quotidiennes dont on a absolument rien à foutre. Il y a un peu ça dans Fargo aussi. Ils sont sur des scènes de crime, ils parlent de café.
Tout le monde se connaît.
Ouais, enfin, un village français aussi, tout le monde se connaît. Non, mais c'est pour finir sur cette merde quand même. C'est qu'à la fin, donc t'as Adam et Bill Murray qui sont encerclés par des zombies. Là, t'as l'extraterrestre qui arrive, donc les zombies s'en vont. Et là, ils disent on va sortir avec nos fusils, on va tirer le plus. Ben non, vous avez le temps, vous pouvez vous barrer là justement. Barrez-vous, mais non. Ils se lèvent et comme ils ont dit, parce que drôle, c'est le quatrième mur, on sait que ça finit mal, donc on est porté par le destin à cal scénario. Donc ils arrivent, puis ils tuent, je sais
alors
pas,
plus,
20 zombies, puis ils meurent, mais ça n'a aucun sens.
Et même dans, justement, on est porté par le scénario, ils disent ah bah non, il n'y avait pas l'extraterrestre dans mon scénario.
Ah ouais,
du coup, en fait, finalement.
Je m'en souviens pas.
Et il dit t'as lu ça? Il dit ah non, pour le coup, ça c'est vraiment inattendu.
je pense que c'est soupir pour résumer.
Il faut qu'il arrête de faire des comédies comme ça.
Ouais, t'as vu ces autres films sur les vampires? Parce qu'il paraît que je l'ai plus. Alors c'était mieux quand même.
Mais qui ne sont pas du tout des comédies, donc du coup c'est beaucoup mieux.
Il est peut-être juste pas drôle en fait. Quoi.
Ah bah clairement,
je suis en train de chercher.
Là, je pense qu'on a la réponse. Hein.
D'autres comédies qu'il a pu faire. Bah, alors, j'ai beaucoup aimé moi, le film d'avant, Patterson, qui est pas une comédie, mais où il y a des moments assez drôles. Il faut mieux revoir Patterson qu'aller voir The Dead Don't Die.
Très bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce film. Tour final, Cédric.
Bien, je viens de donner mon final. Revoyez Patterson.
Yannick ?
Moi, je pense qu'il faut partir avant la fin.
À quel moment, président ? Non. Fiona ?
Au début, au générique. Moi, je suis loin de m'être assez marré pour accepter qu'on ne m'ait rien raconté. Peut-être que si j'avais été dans une... Peut-être qu'il faut y aller bourré. Peut-être c'est ça.
Ce n'est pas un conseil qu'on
donne. Oui, non, on ne va pas le donner, mais je ne sais pas. Hein. Et moi, je vais arrêter d'aller voir des films avec Tilda Swinton. Ça ne me réussit pas du tout.
Bah, elle était dans Avengers.
Enfin, et pour voilà, plus sérieusement, moi je trouve que ce film, autant faire un doigt d'honneur, enfin mettre un mec et faire un doigt d'honneur au public tout le long. Voilà, c'est tout.
Bah, c'est...
Faites ça chez vous, chers réalisateurs, imposez pas ça aux gens. Quoi.
Bah, dans mes notes, alors, je vais essayer de faire preuve de nuance. Dans mes notes, j'avais marqué une merde infâme. Bah, je le maintiens. Je pense honnêtement, on est en mai déjà. Je pense qu'il va faire partie de mon top 5 des pires films de l'année, je pense. Parce que et je suis content que tu l'aies vu, Cédric, parce que tu n'as pas vu Suspiria l'année dernière.
Et où il y avait qui Tilda Swinton.
On s'arrête là pour les films. On va maintenant faire les recommandations, les dérecommandations de la semaine. Cédric.
Alors une recommandation, la série Polichinelle, qui est visible sur YouTube. Et je vous recommande le documentaire The Bill Murray Stories, qui est un documentaire assez drôle, puisque en fait Bill Murray, depuis des années, entretient une espèce de mythe autour de sa célébrité. C'est-à-dire qu'il utilise sa célébrité pour transcender, on va dire, la vie des gens, le temps d'une heure, où par exemple il s'incruste dans des mariages, il s'incruste dans des fêtes. Il y a énormément de légendes qui circulent autour de ça. De ces histoires-là. Et il y a un de type qui a dit bah, je veux savoir en fait si toutes ces histoires qui circulent sur Internet sont vraies ou pas. Et il a fait un film là-dessus. Et qui est en même temps une espèce de portrait de Bill Murray. Et le film est assez marrant.
Ok. Yannick ?
Alors, moi, ma recommandation, c'est Polichinelle, qui est à visionner sur YouTube, qui est exceptionnel. Et mon autre recommandation, c'est la fin de la saison 2 de Gomorrah, que je vois en ce moment, qui est mortelle.
Ok, c'est sur Netflix ?
C'est sur
Torrent,
sur Internet.
Claire, qui vient d'arriver, tu as une recommandation peut-être ?
Polichinelle sur YouTube, super.
D'accord. Fiona ?
Alors moi, j'ai une recommandation, un gros coup de cœur pour Polichinelle. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Non.
Écrit et réalisé notamment par Armand Robin.
Je ne connais pas.
Très bel homme. Mm. Très bel homme et très, très grand réalisateur et très grand par la taille et par le talent. Et sinon, je vais aussi... et donc, c'est visible sur YouTube. Et il faut leur mettre un... Il faut, faut s'abonner et mettre un pouce en l'air.
Et la cloche.
Et tout ce qui va avec. Et je vais recommander, alors là, je me surprends moi-même, un film iranien. Eh oui. Eh oui. De Abbas Kiarostami. Mm-hmm. Qui s'appelle « Où est la maison de mon ami ?» qui est un film qu'on m'a conseillé il y a à peu près 6 ans, 5 ans, et que j'ai mis 6 ans à voir, parce que c'était, comme je l'ai dit, c'est un film iranien. Et j'ai, bon, comme c'est pas une narration habituelle, mais c'est, ça montre bien les dilemmes pour les enfants et ce qu'ils peuvent vivre. Et ça permet de répondre aux gens quand ils vous disent « Ouais, mais il n'y a pas d'enjeu, tout peut être un enjeu. » Voilà, tant qu'il est bien traité. Voilà.
Très bien, bah moi je vais vous recommander une série sur YouTube qui s'appelle Polichinelle, qui parle de deux lesbiennes qui essaient d'avoir un enfant. C'est vraiment très bon, regardez-le. Et abonnez-vous, parce que s'il y a 50 000 abonnés, il y aura une saison 2. Et sinon, je vais aussi recommander un jeu vidéo qui s'appelle The Division, donc numéro 2, qui est sorti en mars, je crois, alors qu'il est la suite du numéro 1. C'est un RPG, un TPS, et alors le scénario, je n'ai rien suivi. On s'en fout complètement, je crois qu'il y a un virus qui a tué les gens à Washington, mais c'est un jeu qui est basé sur la progression, et on a des armes de plus en plus fortes, et on progresse et on joue avec des copains, et on tire sur des gens, et on tire sur d'autres gens, et on tire encore sur des gens. Et ben ça m'a occupé 40 heures quand même, hein. Donc c'était vraiment sympa. Ce sera pas le jeu qui entrera dans l'histoire du jeu vidéo, mais si vous avez 40 heures à perdre, hein, plutôt que de voir Dead Don't Die, finissez The Division 2. On vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt, et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. À bientôt. I am inevitable.